Aimez-vous les ruines ? Bordées ici par de grands arbres qui donnent sur le Fluvià, elles sont d'étranges mémoires de pierre. Dans le soleil de Catalogne, on doit plisser les yeux pour y voir quelque chose, mais il arrive que dans l'éblouissement, la vue se brouille si bien que les ruines du site archéologique deviennent presque floues. Alors se mettent à revivre des strates d'histoire. La place du marché, les petites échoppes, les tavernes. Il y a un stade aussi, ou plutôt un terrain de sport où s'entraînent de jeunes gens. Au loin des bateaux de commerce et le peuple qui s'affaire dans le dédale des ruelles. Et puis cet amphithéâtre et ce forum et ces maisons à la coupe généreuse ornées de mosaïques. Il y a du monde soudain, tellement de monde dans ce port que l'on nomme Emporias du grec Emporion qui a donné Emporiae en latin. C'est un comptoir qui a été créé par les Phocéens il y a plus de 2500 ans. On me raconte les guerres, les destructions, l'exode, et puis une ville qui renaît, des Grecs aux Romains. Aujourd'hui, il y a un musée, une bibliothèque, des guides audio qui font renaître le passé. On s'y promène volontiers le week-end, mais pas quand la tramontane fait des siennes, quand il y a du soleil, comme ce matin, qui éblouit les vestiges du passé et que le regard se trouble, si bien qu'elle semble ressuscitée.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui est un écrivain européen, né en Espagne, dans un village d'Estrémadour. Il nous a donné rendez-vous ce matin sur le site archéologique d'Emporias, en Catalogne, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Gérone, où il a grandi. Bonjour, Javier Cercas.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Tout d'abord, pourquoi le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui est-il pour vous emblématique de votre vision de l'Europe ?
Pour deux raisons. La première, c'est très anecdotique. J'ai une maison ici, très à côté. Mais aussi parce que je pensais en lieu où le passé est toujours présent. C'est-à-dire un lieu, un vaste lieu de mémoire. Et ici, on trouve ça.
Il faut nous le décrire, ce lieu où nous nous trouvons, Javier Cercas. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Qu'est-ce qui vous frappe immédiatement quand vous arrivez ici ?
La mer à côté, dans un lieu qui a été, en fait, très important. Emporium signifie marché, signifie cité portuaire, elle était importante. Et en même temps, il y a une cité grecque à côté. Tout a été préservé, les passés est ici présent. Et cette tradition d'Athènes, de Socrate, est visible, non ? Ça, c'est formidable.
Il y a la tradition historique et il y a aussi la sensibilité. D'un point de vue sensible, ces ruines qui sont devant nous, quels sentiments, quelles émotions est-ce qu'elles suscitent ? En vous.
Une chose que c'est essentiel pour ma vision du monde, et je dirais pour mes romans, le fait que on habite, j'ai dit toujours, on habite une sorte de dictature du présent. Et les gens pensent que le présent c'est seulement aujourd'hui, ce matin, et hier était le passé, et la semaine dernière était presque la préhistoire, quelque chose comme ça. Mais c'est une vision complètement fausse. C'est-à-dire, le passé, et surtout le passé duquel il y a mémoire, et il y a témoin, ce passé n'a pas passé encore. Ce que je vois ici, c'est le passé comme présent. Le passé, c'est une dimension du présent sans laquelle le présent s'est mutilé.
Alors c'est absolument passionnant, cette conscience du temps, Javier Cercas, parce que c'est bien sur les ruines de villes disparues que vous avez décidé de nous convier. Est-ce que ce serait par hasard une préfiguration de ce que pourrait devenir l'Europe ? L'Europe qui serait en train possiblement de se changer en ruine ?
Oui, bien sûr, l'Europe pourrait finir, ça c'est sûr. Mais j'espère que ça sera très tard. Je veux dire une autre chose, que c'est très important. Je ne crois pas qu'il existe une identité européenne. Et je ne crois pas qu'il existe une identité française ou espagnole, etc. Si on peut parler d'une identité européenne, ça serait une identité contradictoire, paradoxale. Une identité plurielle. C'est-à-dire, l'Europe est faite de sa pluralité, de sa diversité. Et c'est pourquoi je crois que le slogan idéal de l'Europe unie serait « et pluribus unum ». C'est-à-dire, ça veut dire de beaucoup de traditions, de beaucoup de langues, de beaucoup de pays, qui ont été en guerre permanentement, on oublie ça, on fait un seul État, on fait une union. « Et pluribus unum », de beaucoup, un seul.
Alors à propos d'identité collective, il ne m'a pas échappé que nous ne sommes pas n'importe où en Espagne, mais dans la communauté autonome de Catalogne, récemment troublée par des mouvements indépendantistes. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur ces mouvements, sur ces revendications ?
Je crois que l'idée du séparatisme, c'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et après, je crois que la seule utopie raisonnable qu'on a inventée en Europe, c'est l'Europe unie.
Mais en quoi précisément ces revendications sont symptomatiques du malaise européen.
Ah oui, c'est absolument symptomatique. Dans quel sens ? Ce qui se passe ici n'est pas essentiellement différent de ce qui se passe en Europe, je dirais en Occident. C'est-à-dire, il y a eu une crise énorme, 2008-2009, énorme, seulement comparable à cette crise qui s'est passée en 1929. Énorme, très dure. Et comme on sait très bien, la crise de 1929 a provoqué un mouvement sismique qui a déclenché la guerre mondiale, finalement. Aujourd'hui, on est encore dans les conséquences de le mouvement de la crise 2008, qui n'a pas provoqué, j'espère, une guerre, grâce à un parti très important à l'Union européenne, mais qui a provoqué un séisme énorme, qui a eu des manifestations diverses dans tous les pays européens et pas seulement en Europe, et a créé, pas les totalitarismes des années 30, mais ce qu'on appelle, à juste titre, le national-populisme.
Alors qu'est-ce que c'est pour vous précisément le populisme ?
C'est une sorte de masque postmoderne de ce qu'aux années 30 a été en général le totalitarisme, c'est-à-dire le fascisme et le communisme, surtout le fascisme. C'est-à-dire l'histoire ne se répète exactement, jamais, mais se répète avec des masques, avec des transformations. C'est une sorte de métamorphose de cet totalitarisme. C'est une sorte, c'est évidemment une manifestation du nationalisme. Le nationalisme, nous avons cru, le nationalisme, comme nous savons très bien, a tué l'Europe, c'est-à-dire la Première et la Seconde Guerre mondiale sont conséquences de cet cauchemar qui était pour l'Europe le nationalisme. Et après la crise, le nationalisme est revenu avec toute sa force. Et c'est très simple, parce que le nationalisme donne une illusion de sécurité à beaucoup de gens. Les démagogues disent « Non, l'Europe, c'est l'ennemi. Bruxelles, c'est une chose abstraite. On nous vole et tout ça. » Et nous sommes Français, nous sommes Italiens, nous sommes Espagnols, nous sommes Catalans. Et ça donne une certaine sécurité illusoire. Et ça s'est passé partout. C'est-à-dire en Italie, aujourd'hui, c'est un retour du nationalisme. En France, il y a un retour du nationalisme très évident. Partout en Europe, un des traits essentiels du national-populisme, c'est le même qu'un des traits du nationalisme. C'est trouver un ennemi en dehors du pays.
Cette répétition de l'histoire sous une autre forme, ça pose une question absolument passionnante, et particulièrement ici, sur ce site archéologique qui est un lieu de mémoire, d'histoire. Pourquoi, Javier Cercas, est-ce qu'on est incapable de se souvenir des leçons de l'histoire ?
On oublie constamment. On vit dans une époque apparemment paradoxale. On a sacralisé la mémoire, on parle toujours constamment de la mémoire, et on oublie plus rapidement que jamais. Alors, pour moi, c'est absolument évident que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de l'oubli de ce qui s'est passé aux années 30.
Le premier tour des élections européennes aura lieu le 26 mai en Espagne. Quels espoirs est-ce que vous placez dans ces élections, vous ?
L'espoir de... Ok, aujourd'hui, il y a, c'est très évident, des ennemis très forts de cette utopie raisonnable que c'est l'Europe unie. Et c'est une utopie raisonnable parce que c'est la seule forme de... assurer la concorde, c'est-à-dire la paix, la prospérité et la démocratie en Europe. Mais aujourd'hui, c'est absolument évident qu'il y a plus que jamais des ennemis très forts de cette idée. Donald Trump n'est pas intéressé à ça. Monsieur Vladimir Poutine n'est pas intéressé à ça. Il y a beaucoup de gens. Mais spécialement, il y a une internationale nationale populiste en Europe. Madame Le Pen, Monsieur Salvini, et un peu partout, Orban, un peu partout. Des gens qui ne veulent pas une Europe unie. Et encore, il y a encore une chose qui c'est encore pire, que c'est peut-être le pire ennemi de l'Europe unie, c'est le fait que les gens comme moi-même, qui sont absolument sûrs qu'il faut aller à une Europe fédérale, nous n'avons pas été capables de convaincre les citoyens européens que l'Europe unie est une nécessité totale. C'est-à-dire que c'est absolument indispensable pour son bien-être, pour la liberté, pour la fraternité, pour l'égalité, cette construction européenne. c'est pas une chose ornementale, c'est pas une chose.
Et on peut remonter beaucoup plus loin. Javier Sarkaz, vous dites volontiers que l'une des plus belles créations nées de l'utopie européenne, c'est celle du roman. Et il se trouve qu'on la doit à un Espagnol, un certain Miguel de Cervantes, qui avec Don Quichotte a signé l'acte de naissance du roman européen au début du XVIIe siècle. On écoute un extrait du Quichotte, lu par l'ami Guillaume Gallienne dans son émission « Ça peut pas faire de mal ».
Bravo !
C'est alors qu'ils découvrirent dans la plaine 30 ou 40 moulins à vent. Dès que Don Quichotte les aperçut, il dit à son écuyer « La chance conduit nos affaires mieux que nous ne pourrions le souhaiter. Vois-tu là-bas, Sancho, cette bonne trentaine de géants démesurés ? Eh bien, je m'en vais les défier l'un après l'autre et leur ôter à tous la vie. Nous commencerons à nous enrichir avec leurs dépouilles, ce qui est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est servir Dieu que de débarrasser la face de la terre de cet ivraie. Des géants ? Où ça ? Là, devant toi, avec ses grands bras dont certains mesurent presque 2 lieues. Allons donc, monsieur, ce qu'on voit là-bas, ce ne sont pas des géants, c'est des moulins. Et ce que vous prenez pour des bras, ce sont leurs ailes qui font tourner la meule quand le vent les pousse. On voit bien que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et dis une prière, le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié. Et aussitôt, il donna des éperons à Rocinante, sans se soucier des avertissements de Sancho, qui lui criait que ceux qu'il allait attaquer étaient bien des moulins et non des géants. Mais Don Quichotte était tellement sûr de son fait qu'il n'entendait pas les cris de Sancho, et que même arrivé devant eux, il ne voyait pas qu'il se trompait.
Javier Sarkaz, invité de Boomerang pour cette semaine consacrée à l'Europe, Boomerang à l'heure européenne. On vient d'entendre un extrait du Quichotte de Cervantes, lu par Guillaume Gallienne. En quoi ce livre a-t-il changé la face de la littérature pour vous ?
Absolument. Le roman moderne commence là et a révolutionné absolument notre vision du monde. Absolument.
En quoi ?
Par exemple, il a créé ce qu'on peut dire, on peut appeler l'ironie moderne. Qu'est-ce que c'est l'ironie ? C'est très simple. Don Quichotte, c'est fou. C'est un homme qui est complètement fou. Il devrait être dans un sanatoire. Mais en même temps, il est complètement lucide, très intelligent, très cultivé, qui parle avec lucidité de toutes les choses très difficiles. La justice, la littérature, tout. Ça, c'est l'ironie. Cette vérité contradictoire. Don Quichotte, c'est un homme, c'est vrai, complètement ridicule, comique. Mais en même temps, c'est un grand héros. C'est le plus grand héros qui a existé jamais. Vous voyez, ça c'est l'ironie, cette vérité contradictoire.
On a besoin de cette ironie, de cette vérité contradictoire.
Absolument.
Pour lire l'Europe d'aujourd'hui, Javier Sarkaz.
On a besoin de ça pour vivre, parce que cette ironie, c'est l'ennemi fondamental du fanatisme, qui dit non, une chose seulement peut être une chose, et si tu penses une autre chose, je te tue. Cervantes a créé une arme de destruction massive contre le fanatisme.
Quelle lecture passionnante de ce que c'est que le genre romanesque, cette forme romanesque qui a ensuite été enrichie par les Anglais au XVIIIe siècle, puis par un Gustave Flaubert au XIXe siècle notamment. Qu'est-ce que Flaubert a apporté au roman par la suite ? Flaubert dont on a longtemps vanté l'ironie, justement.
Énormément de choses. Flaubert change le roman. Dans le sens que Flaubert donne au roman un ordre géométrique. Chaque parole est là pour quelque chose, où chaque parole est relevante. Mais permettez-moi de dire une chose. Le meilleur lecteur de Cervantes, qui a compris mieux Cervantes, n'a pas été les Espagnols, a été en français.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'effectivement, Javier Sarkaz, le génie de Cervantes, il n'a pas vraiment été reconnu à sa juste valeur par les Espagnols au départ. Il n'a pas fait des mules, il n'a pas permis le développement immédiat d'une littérature à l'image prestigieuse. Comment ça se fait ? Pour quelles raisons ?
Ah, c'est compliqué. Le roman a été compris dans cette société qui ont commencé à créer ce qu'on appellerait aujourd'hui des sociétés ouvertes, c'est-à-dire où la démocratie a commencé à avancer. En Espagne, le problème, c'était que, pour le dire une seule phrase, le fanatisme était encore là. Et alors, on ne pouvait pas comprendre la leçon de Cervantes, qui était essentiellement antifanatique, qui était contre ces vérités absolues, totalitaires, l'Église et tout ça. Mais permettez-moi de dire une chose. Vous voyez comment, quand on parle, on dit la culture européenne, ça a existé depuis toujours. C'est-à-dire, la culture européenne, vous voyez avec les romans, c'est un métissage. qui ont été les personnes qui ont mieux compris et appliqué la leçon de Flaubert? Oui, c'est vrai, c'est Proust que c'est en français, mais aussi James Joyce. Et aussi un Tchèque qui écrivait en allemand, qui s'appelait Franz Kafka, et qui a pris le meilleur, de la meilleure forme la leçon de Kafka, a été un Irlandais qui écrivait en français, qui s'appelait Samuel Beckett, etc., etc., etc. C'est-à-dire, l'histoire du roman européen, c'est une histoire de métissage, de mélange.
Mais quel rôle, précisément, Javier Sarkaz, peut-elle jouer, la littérature, dans la préservation et l'accomplissement de cette utopie raisonnable dont vous parlez, que représente l'Europe?
Ce qui doit faire la littérature, c'est montrer la complexité du monde, c'est comprendre tout, même les mal, et comprendre ne veut pas dire justifier, veut dire exactement le contraire, veut dire nous donner les armes pour ne pas faire les mêmes erreurs qui ont fait nos ancêtres. Et alors, la littérature peut devenir utile.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être un écrivain européen? Est-ce que ça a un sens, au moins?
Mais oui, je suis un écrivain européen parce que je suis un écrivain espagnol. C'est tout, c'est très simple. Quand je parle de la guerre civile, je ne parle pas seulement de l'Espagne. Parce que la guerre civile a été essentielle pour l'histoire de l'Europe. En fait, la guerre civile a été le premier acte, le prologue de la guerre de l'Europe. Et aussi parce qu'il y a eu des Français, des Italiens, gens de partout qui ont venu ici. Je suis inévitablement un écrivain européen.
Mais on parle depuis tout ce temps d'une culture commune, quelque part, ensemble. Et ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'il n'y a pas de radio, pas de télévision, pas de journaux communs. Comment est-ce que c'est possible, après tant d'années d'existence commune dans l'Union européenne?
Excellente question. Je ne sais pas. Excellente question. Je sais qu'il y a un prix européen parce qu'on me l'a donné. Et je suis très heureux. On me l'a donné au Parlement européen. Pourquoi ça n'existe pas? Je ne suis pas sûr, mais je crois que le pays a eu peur de faire ça. C'est-à-dire, on a fait l'euro, que c'était très difficile, la monnaie, mais on a pensé, non, il faut préserver les cultures différentes. Et je suis d'accord. C'est-à-dire, permettez-moi de dire une chose très importante, les démagogues, aujourd'hui, les national-populistes démagogues disent, non, parce que si on fait l'Europe unie, on perd le français, la culture française, on perd la culture espagnole, on perd la culture italienne, et tout ça. Ça, c'est complètement faux. Parce que l'Europe unie est pluribus unum. Ce que doit faire, c'est préserver la pluralité culturelle et avoir une unité politique. Et ça, c'est possible. Ça, c'est la forme de faire du cette utopie de l'Europe.
Vous êtes sûr du mot utopie, Javier Sarkaz, que vous employez beaucoup, parce qu'en philosophie, vous le savez, depuis Thomas More,
oui.
Dans l'utopie, il y a toujours quelque chose d'un peu pourri.
Et l'utopie, théoriquement, c'est un lieu qui n'existe pas. Je ne parle pas d'utopie dans un sens, disons, plus populaire. C'est-à-dire une chose désirable. C'est toi, un rêve qu'il faut, que c'est possible d'atteindre. Ce n'est pas un rêve impossible comme l'utopie dans le sens, disons, strict. Non, c'est vrai, cette utopie est très lointaine encore. Je ne suis pas heureux avec l'Europe qu'on a aujourd'hui. Pas absolument rien. Je crois qu'il y a énormément de défauts. Mais la solution, ce n'est pas faire comme les Britanniques, et sortir, et la solution n'est pas dire non, en France c'est encore mieux, parce que c'est pas vrai. La solution, c'est faire une Europe meilleure.
On va reparler évidemment de cette Europe meilleure, mais aussi de rêves, de mémoires, juste après Manu Chao, Desaparecido, sur l'album Clandestino, c'était en 1998. Vous êtes sur France Inter avec Javier Sarkaz, vous écoutez Boomerang à l'heure européenne.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido.
desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo llegaré? Al XXI.
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il a ce visage calme et cet air amen, vous savez, de l'homme providentiel, du médecin de famille ou du curé de campagne. Tiens, le cœur sur la main, ne ménageant pas sa peine et juste en toutes circonstances avec son cheveu brun, son œil froncé et brun, curieux, malin, son sourire solaire. On est quelque part entre Monsieur Tout-le-Monde et François Hollande avec des cheveux, avec sa veste beige. Ce matin, l'écrivain et journaliste Javier Cercas, invité de Boomerang, dans le cadre de cette semaine spéciale dédiée à l'Europe. Et on l'entend, Javier, vous êtes un Européen convaincu. J'ai l'impression que l'Espagne, c'est peut-être l'un des pays les moins eurosceptiques de l'Union. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça, cet attachement qu'a l'Espagne à l'Europe ?
C'est vrai, vous avez complètement raison. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent exprimer ça. Par exemple, il y a une raison historique, c'est très important. Pour moi, la seule forme de faire quelque chose d'utile avec le futur, c'est avoir le passé toujours présent. Si on oublie les passés, surtout les pires passés, on est condamné à les répéter. Et qu'est-ce qui s'est passé en Espagne ? On avait un énorme empire, mais cet empire est disparu peu à peu, et l'Espagne s'est écartée de l'Europe. Un peu comme les Anglais aujourd'hui, on pensait que nous étions seuls, parfaitement bien, sans problème. L'Europe n'était important, la France était importante, tout ça. On était l'empire, on était... non. Et à la fin du XVIIIe siècle, les meilleurs Espagnols, à un moment donné, ont compris que ça a été un désastre total. Que l'Empire n'était pas une vérité, mais une nostalgie. Que l'Espagne était en arrière, qu'elle était un pays barbare, qui avait perdu le train de la science, de la liberté, de la prospérité, tout ça. Et pour eux, l'Europe a commencé à être un vrai rêve, retourner à l'Europe. Et alors, pour nous, pendant deux siècles, le rêve était l'Europe. Encore, le franquisme a été les derniers horribles, tristes moments où l'Espagne n'acceptait pas son destin naturel, son destin meilleur que c'était l'Europe. Alors, c'est pour ça, je crois, que nous voyons très clairement, par cette histoire triste d'écartement de l'Europe, que nous sommes Européens et que nous avons besoin de l'Europe, comme l'Europe a besoin de nous.
Concrètement, qu'est-ce que l'entrée de l'Espagne dans l'Union en 1986 a changé pour vous, dans votre pays ? Vous aviez 24 ans, Javier Cercas.
Quand j'étais jeune, on disait « on va à l'Europe ». Quand on allait à Paris, par exemple, on va à l'Europe. Non, mais l'Espagne, c'est l'Europe.
Ça a apporté du rêve pour le jeune homme que vous étiez ?
Ah mais oui, absolument. Mais oui, c'est que je voulais être, c'était comme vous, avoir une démocratie, avoir la liberté, avoir tous les privilèges qui...
Oui, parce que cette relation unique, cet attachement européen, il est, vous l'avez rappelé, lié aux heures sombres traversées par l'Espagne pendant les 40 années de franquisme, période sur laquelle vous avez beaucoup écrit, Javier Cercas, notamment dans Les soldats de Salamine, Le monarque des ombres, ou même L'imposteur. Dans quelle mesure votre pays a-t-il ou non fait la paix avec son histoire, avec son passé?
C'est... Ok, mes livres... ne parle pas exactement de la guerre civile, du passé, parle de l'héritage. Et c'est un problème, de l'héritage du passé.
Il en est question dans vos
livres. Il en est question de ça. Et ça, c'est un problème espagnol, mais c'est un problème universel. C'est-à-dire, nous avons tout, personnellement et collectivement, un bon héritage et un mauvais héritage. Et nous savons très bien qu'est-ce qu'on fait avec le bon héritage, mais qu'est-ce qu'on fait avec les mauvais héritages? Ça, c'est la question qui se pose dans mes livres. Et nous, mon pire héritage, c'est évidemment la guerre civile, et la dictature. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage? On le cache, on l'édulcore, on crée un héritage alternatif, plus beau, où on les connaît et on les comprend. Et ce que j'ai voulu faire avec mes livres, c'est pour commencer à connaître ces passés terribles et le comprendre. C'est très difficile de faire la paix complètement avec le passé. Avec un passé si difficile. C'est vrai, quand j'étais jeune, je pensais que mon pays était exceptionnel et que seulement mon pays avait un passé exceptionnel. C'est faux. Tous les pays, y compris la France, ou pour commencer avec la France, ont des passés compliqués, un héritage compliqué.
À quoi ressemblait l'Espagne de votre enfance, l'Espagne sous Franco, vous qui aviez une dizaine d'années lors de la fin du régime?
C'était triste. Dans un de mes livres, il y a un personnage qui dit « Pouet la merde ». C'était une Espagne triste. C'était une Espagne... basiquement ça, pauvre. C'est-à-dire, c'est d'une évidence que les dernières 40 années de l'Espagne, où on a eu la période de plus grande liberté de l'histoire moderne, les changements étaient énormes. Mon pays était presque un pays du tiers-monde, presque, pendant le franquisme. La fin du franquisme était un peu mieux.
Vous vous souvenez du jour où sa mort a été annoncée?
Ah oui, absolument, j'étais 13 ans. Absolument, c'est un jour qu'on n'oublie pas.
Vos parents, comment est-ce qu'ils ont réagi?
Mes parents... comme la plupart d'Espagnols, étaient énormément inquiets. Qu'est-ce qui se passerait? Je me souviens très bien de ça. J'avais 13 ans, j'étais très petit, mais j'avais la conscience, une conscience très générale. Qu'est-ce qui se passera? 40 ans dans le régime.
Et vous aviez cette inquiétude, vous aussi, Javier Cercas?
13 ans, j'étais jeune. Non, j'avais ce sentiment de que quelque chose d'étrange, important, passait. Mais j'y allais jouer au tennis ces jours. Parce qu'à l'école, on nous a dit, on ne travaillait pas aujourd'hui, alors on allait jouer au tennis, mais la sensation n'était pas d'euphorie, n'était pas de... Non, c'était d'inquiétude. On ne savait pas qu'est-ce qui se passerait après ça. Et je dois dire, on n'attendait pas, la plupart du monde, une démocratie en Espagne. Il y avait beaucoup de gens très intelligents à ces moments, des politologues et tout ça qui disaient l'Espagne n'est pas préparée pour la démocratie. On a oublié ça complètement, mais c'est comme ça. Inquiétude. Et c'est normal. 40 ans sur beaucoup d'ans, c'est pas peu de choses, c'est une vie. Non, il y avait eu des gens qui seulement connaissaient le franquisme. Alors, qu'est-ce qui viendra après? C'était la vraie question à ce moment-là.
Pour terminer cette émission, Javier Cercas, j'ai choisi de lire un extrait d'une de vos œuvres, d'un de vos romans, un extrait du Monarque des Ombres. Je ne sais pas comment l'attaque se déroula. Personne ne le sait. Il ne reste aucun témoignage écrit. Aucun survivant pour raconter ce qui s'est passé. Sur ce point, je ferais donc mieux de me taire, de cesser d'écrire, de céder la parole au silence. Évidemment, si j'étais un littérateur et ceci une fiction, je pourrais affabuler sur l'événement. Je serais autorisé à procéder ainsi. Si j'étais un littérateur, je pourrais par exemple imaginer Manuel Mena, quelques heures avant l'attaque, pelotonné dans son refuge nocturne creusé dans la neige, tenu éveillé par le froid polaire et la certitude qu'il va jouer sa peau. Je pourrais imaginer qu'il a peur, et je pourrais imaginer qu'il n'a pas peur. Je pourrais imaginer tout ça. Mais je ne l'imaginerai pas. Ou du moins, je ferai semblant de ne pas l'imaginer, car ceci n'est pas une fiction. Et moi, je ne suis pas un littérateur, de sorte que je dois m'en tenir à la solidité des faits. Je ne le regrette pas, enfin pas trop. Tout compte fait, si loin que je puisse aller dans mon affabulation, jamais je n'arriverai à imaginer l'essentiel qui échappe toujours. Et ici, l'essentiel, ou ce qui me paraît essentiel en cet instant, serait de déterminer quelle sorte de sentiment Manuel Mena éprouva cette nuit-là, une fois retiré du champ de bataille, après sa première véritable expérience de combat. Merci infiniment, Javier Cercas, de nous avoir accueillis ici à Emporias en Catalogne pour cette semaine spéciale consacrée à l'Europe. Je rappelle que vos romans, Les soldats de Salamine, Anatomie d'un instant, Les lois de la frontière, L'imposteur ou encore Le monarque des ombres sont publiés chez Actes Sud. Et tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Elle est partie, c'est rien de le dire. Pas sur un coup de tête. Elle est partie, c'est rien de le dire. Pas sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre. Le ciel est noir d'oiseaux. Oh, c'est chacun. Oh, c'est chacun. La vérité nue. La vie crue, les nuits bleues, le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Oh. Le ciel a changé, il a changé, enfin de place. Un vague âme, ouste chouka. Un vague âme, ouste chouka.
Bertrand Belin, Nuit Bleue sur France Inter. Nous, on se retrouve demain à Athènes avec l'écrivain grec Vassilis Alexakis dans le cadre de cette semaine européenne. Mais tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia.